29 novembre 2018, au sommaire, les stagiaires dans les sciences et technologies, alors que les étudiants dans les cégeps et les établissements universitaires menacent toujours de tomber en grève générale illimitée si rien n'est fait pour améliorer les conditions de rémunération de certains stages, eh bien nous avons voulu en savoir un peu plus sur la situation dans les stegmas, un domaine qui ne semble à première vue poser aucun problème pour ce qui est des conditions de stage. Alors est-ce réellement le cas? C'est ce que nous dira Émilie Aubry dans un reportage à découvrir dans quelques secondes. À suivre également l'analyse C'est Science de notre économiste Audrey Azoulay sur le biomimétisme. Et enfin, notre invité de la semaine, c'est Frédéric Napki, professeur en génie électrique à l'ETS, mais aussi et surtout fondateur de Spark, une des 60 startups mondiales à surveiller en 2019, selon le EE Times. Au micro, Philippe Regnoux, c'est l'hebdo, c'est maintenant. À la une de ce jeudi 29 novembre 2018, la situation des stages en milieu de travail non rémunéré. Salut Émilie.
Bonjour Philippe.
Alors la poussière semble être retombée depuis le 21 novembre dernier. Plusieurs milliers d'étudiants des cégeps et des universités avaient en effet exprimé leur colère dans plusieurs villes du Québec pour dénoncer certaines de conditions de stage en milieu de travail qu'ils jugent précaires. Une semaine après, le problème demeure entier. Le gouvernement se dit sensibilisé à cet enjeu et a demandé à son équipe de réaliser un état de la situation. Mais la situation, à l'heure où on se parle, elle n'a pas évolué. Une menace de grève générale pour janvier pèse toujours sur les établissements de la province.
Oui, Philippe, on peut dire que c'est le statu quo présentement. Les étudiants sont en attente de réponse. Aux dernières nouvelles, il y a eu levée de cours dans plusieurs établissements concernés et certains stagiaires ont même été menacés par leurs employeurs dû à leurs absences. À savoir si les étudiants en technologie, sciences et innovation étaient touchés par cette problématique, j'ai contacté les associations étudiantes concernées des différentes écoles montréalaises. Question de connaître l'opinion d'un diplômé de Polytechnique, je me suis d'abord entretenue avec William Harvey, qui a étudié en génie mécanique au baccalauréat, qui a donc fait un stage d'un an durant cette période et qui a poursuivi en génie énergétique à la maîtrise pour compléter son apprentissage 4 mois en entreprise, plus précisément chez Hydro-Québec. Dans les deux cas, il a été salarié. Il nous explique pourquoi.
Ça fait partie de la politique de l'école. Dans le service de stage et de placement, si les stages ne sont pas rémunérés, ils ne peuvent pas être crédités comme stage qui, dans le fond, dans le cadre des études. Dans mon premier stage, j'ai continué à travailler là à titre de consultant à temps partiel pendant, je vous dirais, un an là, durant la fin de mon bac. Mon stage de maîtrise, j'aurais eu une opportunité, ça n'a pas donné, mais j'avais une opportunité.
Coup d'œil cette fois vers l'Université de Sherbrooke. Sur le site officiel, le message est tout aussi clair dans l'onglet réservé au service des stages et du placement. On indique aux employeurs intéressés à recruter que le stage proposé doit être supervisé, avoir lieu à temps plein durant 15 semaines et être obligatoirement rétribué.
Alors, encourageant non seulement de constater qu'on rémunère les étudiants, mais en plus, on leur ouvre grand les portes après leurs études. Mais est-ce qu'à l'ETS, c'est la même chose?
Jesse Engelhard-Nunes, vice-président aux communications de l'Association étudiante de l'École de technologie supérieure, a également répondu à l'appel et m'a confirmé que les stages étaient intégrés à leur cheminement et donc obligatoirement payés. Selon lui, cette façon de faire influence positivement le recrutement à l'école et l'attitude que peut avoir un futur professionnel sur les lieux de stage. Je me suis rendue à l'ETS pour lui en parler. Voici ce qu'il avait à nous dire.
Parce qu'il y a une notion, justement, je gagne un salaire, fait que j'ai peut-être moins le droit à l'erreur. C'est-à-dire que je suis un peu plus traité comme un employé que comme un stagiaire. Moi, personnellement, quand j'étais en stage, c'était vraiment en... Je suis traité comme un employé de fond en comble. Je participais avec les autres employés aux activités de développement de logiciels. Donc, je ne voyais pas la différence, puis ça me poussait aussi à me pousser à donner mon 100%.
Parallèlement aux avis des étudiants, j'ai fait appel aux employeurs et Vincent Lamoureux, directeur aux affaires de Pfizer Canada, a validé que non seulement la compagnie proposait des stages rémunérés, mais incitait aussi les jeunes à poursuivre leur carrière au sein de leur groupe après le stage. Il soulignait l'apport des étudiants dans la réussite de l'entreprise et je le cite, « Chez Pfizer, nous considérons que les étudiants nous apportent beaucoup, particulièrement pour leur créativité, nos apprentissages communs, leur haut niveau d'énergie, leur attitude positive et leur plaisir au travail. »
Alors Émilie, quand on parle de salaire versé à un stagiaire, comment on évalue le montant qui est alloué?
Bon, évidemment, tout dépend du champ d'études. À l'ETS, des moyennes sont établies selon le service d'enseignement coopératif. Je laisse Jesse Engelhard-Nunes expliquer la suite du processus.
Ça dépend beaucoup des entreprises. C'est un mélange des deux. L'ESS, en fait, va faire un salaire moyen, si on veut, qui va guider les entreprises dans les choix des rémunérations. Et après ça, c'est à la discrétion de l'entreprise d'aller au-dessus ou en dessous de la moyenne. Les moyennes moyennes aussi sont également transmises aux étudiants, donc ils peuvent savoir à quoi s'attendre et à savoir est-ce que c'est en dessous de la moyenne ou est-ce que c'est au-dessus.
Il faut dire qu'au total, à l'ETS et dans plusieurs autres écoles, la période dédiée au stage correspond à 30 % du temps requis pour compléter un baccalauréat et se déroule à temps plein. En considérant ceci, on comprend qu'il est nécessaire pour les étudiants d'avoir le temps de se consacrer entièrement à leurs études et donc de ne pas se laisser déconcentrer par un emploi supplémentaire à temps partiel. Le fait que les stages soient rémunérés demeure un facteur de réussite important.
Alors malheureusement, on aura compris, cette situation plutôt heureuse, c'est le moins qu'on puisse dire, dans les sciences et technologies n'est pas observée dans toutes les autres disciplines. On peut simplement espérer maintenant que les stigmas vont montrer l'exemple à suivre, tout simplement.
Certainement.
Merci Émilie.
Merci Philippe.
De la semaine. Salut Audrey.
Bonjour Philippe.
Alors on va parler d'écologie et de nature, car les prochaines assises québécoises de l'économie circulaire qui se tiendront donc le 5 décembre prochain au Palais des Congrès de Montréal vont mettre de l'avant cette forme d'économie qui consiste, on le rappelle, à mieux utiliser nos ressources une fois recyclées. Une manière aussi de rappeler que la nature est une des sources principales de l'innovation.
On a souvent tendance à associer les prouesses technologiques au génie de l'homme, alors que les innovations du secteur pharmaceutique jusqu'à l'intelligence artificielle, en passant par l'habitat ou la réfrigération, eh bien ces innovations sont très largement inspirées des écosystèmes naturels. D'ailleurs, l'économie circulaire, qui est d'abord préoccupée par le recyclage des résidus, emprunte à la nature un mécanisme de base, un mécanisme circulaire, qui fait du déchet non pas un résidu, ni un résidu polluant, mais une ressource. On est tous les jours de plus en plus déterminés à réduire la quantité de déchets, en partant de la conception même des matériaux et à les réinscrire dans les processus de production. Les initiatives se multiplient, mais on se gardera bien de se féliciter d'une quelconque bienveillance. Notre rapport aux technologies s'est beaucoup trop rompu au cours des derniers siècles, avec une vision passée plus fascinée et plus reconnaissante de la nature. La puissance des machines et des pays nous ont permis de capitaliser sur de nombreux progrès, de tomber, on peut le dire, dans une sorte d'orgueil face à notre capacité de contrôler les risques, d'exploiter la nature. On ne s'arrêtera pas dans un sentiment de culpabilité. Par contre, la finesse des sciences et des technologies nous permet aujourd'hui de mieux reproduire ce que peut nous apprendre l'écologie. Cela s'appelle le biomimétisme.
Alors le biomimétisme, Audrey, si on comprend bien, c'est donc toutes les solutions qui peuvent être empruntées de la nature. Autrement dit, le champ d'innovation à ce niveau-là, il est infini.
Oui, mais seulement si on s'écarte d'une réflexion productiviste. Le biomimétisme fait de l'écosystème le socle, le principe de l'innovation. En ce sens, il peut inspirer le passage d'une économie dont la configuration est encore trop linéaire vers une économie plus circulaire. Le biomimétisme, c'est aussi à une autre échelle ce que les abeilles ont apporté à l'architecture et à l'impression 3D. Certaines algues ont des technologies pour la captation du CO2, la manière avec laquelle les fourmis se protègent des épidémies, la solidarité entre les végétaux, ce que la structure des organismes suggère aux nanotechnologies ou encore ce que la méduse a apporté à l'imagerie médicale. Alors autant de possibilités qui nous ouvrent sur une ligne entrepreneuriale intéressante, mais aussi sur de nombreux emplois scientifiques et technologiques. Le biomimétisme est aussi propre au décloisonnement des disciplines et donc à la hauteur des innovations. Autre aspect intéressant, les liens économiques à développer entre les centres économiques et les régions plus éloignées, mais proches de zones propices au développement de la biomimétique. Le biomimétisme peut aussi inspirer notre réflexion sur la place des obligations, de la réglementation ou des pénalités de la fiscalité en faveur d'une économie plus verte. A priori, ce ne sont pas les solutions privilégiées par la nature. L'évolution sera peut-être mieux portée par la connaissance et l'expérience multipliée des applications. Pour finir, on n'oubliera pas de mentionner les grandes questions sans grandes réponses sur les brevets sur le vivant et le respect des savoirs ancestraux.
Comme quoi, Dame Nature n'a pas fini de nous surprendre, puis surtout de nous apporter des solutions à certains des gros enjeux que nous rencontrons actuellement. D'ailleurs, on mentionne pour les intéressés que l'Université Laval donne un cours en ligne sur le biomimétisme. Ce sera à partir du 22 janvier prochain. On aura l'occasion d'ici là, sans doute, de le rappeler. Merci Audrey.
C'est donc ces sciences, toute l'actualité des talents innovants au Québec.
Salut Émilie.
Salut Philippe.
Alors, chaque semaine, tu chines, non pas les vieilleries des antiquaires de Saint-Michel, mais les bibelots du boulot parfait. C'est le billet d'Émilie, la tête chercheuse.
Je cherche. Alors, si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce. Alors cette semaine, c'est une chronique un peu spéciale. Je ne vais pas vous... Oui, je ne vais
chaque
pas...
semaine, c'est un peu spécial.
C'est,
même,
oui, c'est
hein.
toujours un peu spécial, bon. C'est vrai. Alors je ne vais pas vous parler d'un emploi en sciences en particulier. Tout d'abord parce qu'il y en a plein. on en parle souvent sur le plateau de Célèbdo. On entend qu'il y a un manque de main d'œuvre. Donc quelque part, moi, je trouve que ça envoie un message clair, un signe aux jeunes diplômés. Et ce signe, c'est « vous avez le choix ». Alors, puis après, en me promenant sur les internets cette semaine à la recherche des meilleurs emplois pour nos auditeurs, j'ai lu la triste nouvelle que Stephen Hillenburg était décédé. Alors, Stephen Hillenburg, tout le monde connaît qui c'est ici sur le plateau.
Alors, Stephen Hillenburg, non, là, il va falloir nous éclairer un petit peu, parce que non, je dis, moi, je ne le connais pas, hein, je suis très honnête. Non.
Mais ce n'est pas possible, hein, ces chroniqueurs qui n'y connaissent rien.
Moi non plus, je n'avais pas de réaction, je me sentais à l'écart.
Toutes les semaines, je suis déçue.
Votre invité, Frédéric, non, vous connaissez... Non, voilà, voilà. Alors, vraiment,
alors,
personne.
Bon, ben, ça me paraissait très logique, mais bon, Stephen Hillenburg, tout le monde le connaît, c'est le créateur de Bob l'éponge.
Ah donc, oui
Et là encore, j'y ai vu un autre signe pour le chercheur d'emploi.
Je ne vois pas le
d'emploi.
Lien de cause à effet pour l'instant avec le... Voilà.
Suis-moi, je t'y amène. Donc, j'y ai vu un signe pour les chercheurs d'emploi, surtout en sciences, car saviez-vous que Stephen était professeur en biologie marine avant de créer ce qui est devenu une des séries animées pour enfants les plus vendues et regardées dans le monde?
Waouh, comme quoi on fait nos études sans savoir comment on va finir.
Exactement, mais la
et
preuve...
Et comme quoi la nature nous amène aussi vers...
Oui, oui. Alors donc c'est ça, c'est exactement, c'est la preuve qu'une carrière scientifique, ça ne s'arrête pas aux portes du labo. Est-ce qu'il y a une série animée que vous avez vraiment aimée dans votre enfance, vous?
Ah oui, on en a plein, les Mystérieuses Cités d'Or, tiens, on va citer ça.
Exact.
Voilà. Cornemuse.
Cornemuse.
Oui, c'est là. Audrey, tu n'as pas eu d'enfance.
Un petit peu.
Alors, je dois dire que Bob l'éponge, ça a eu un succès intergénérationnel, car même si on ne regardait pas la série avec attention, on a tous eu au moins un ami qui s'est déguisé en Bob l'éponge à l'Halloween. D'ailleurs, le succès de la série est tel
que... Et c'est pas beau à voir, hein.
Non, c'est pas beau à voir, mais c'est Halloween, hein. Et le succès est tel que des films sortent, le prochain film sort en 2020. Donc, très divertissant, me direz-vous. Tellement divertissant qu'une étude américaine avait essayé de démontrer à l'époque que regarder Bob l'éponge avant d'aller à l'école quand on a moins de 6 ans nuisait à la concentration ensuite. Et les producteurs de l'émission se sont défendus à l'époque en disant que Bob l'éponge s'adressait aux enfants de 6 à 11 ans et non aux tout petits. Mais moi, je suis un peu sceptique face à la réponse de la maison de production, parce que pour moi, à 11 ans, c'est plus l'âge des petits premiers French dans les couloirs de l'école.
C'est rapide.
C'est plus vraiment le temps de fantasmer sur une éponge qui rit en faisant des bulles. Donc, Bob l'éponge...
Chacun son truc. Hein,
chacun son truc. Donc, Bob l'éponge, ça se passe principalement sous l'eau. On peut suivre ses aventures avec son meilleur ami Patrick, l'étoile de mer.
Ah,
alors, Audrey, clairement, Stephen Hillenburg, il avait tout compris avant tout le monde. Il faut croire que les éponges de mer l'ont inspiré. Et qui s'est mis à faire du biomimétisme pour créer Bob. C'était... Je t'avais dit que j'allais faire un lien avec ta chronique et que ça allait être brillant.
Je suis fière de toi.
Merci.
Elle est très fière. Hein,
alors,
précise,
oui,
c'est
je suis très fière d'avoir allié biomimétisme et Bob l'éponge dans la même phrase. Alors, finalement, ce que nous apprend le créateur de Bob l'éponge, c'est qu'on peut avoir plusieurs carrières dans une vie et que la science peut nous mener très loin jusqu'à mettre des pantalons à une éponge qui parle.
Je pensais que t'allais annoncer que Bob était en grève.
Non.
J'aurais mis le lien vers ma chronique, mais
ah, non.
La semaine prochaine.
La semaine prochaine. Allez, j'espère que ma chronique va vous inspirer dans vos recherches d'emploi. Ça vous évite de dire la prochaine fois.
J'ai cherché, j'ai pas trouvé.
Merci Émilie. Et on rappelle, vous pouvez consulter notre sélection d'offres d'emploi recherche et innovation sur notre plateforme cscience.ca. Peut-être d'ailleurs cette semaine une petite offre d'emploi dans le secteur océanographie.
Exactement.
Ah, c'est ça. Si vous avez des offres à publier, eh bien tout simplement, vous nous contactez via notre plateforme et on se fera un plaisir de relayer.
C'est tout.
C'est l'heure de notre invité. Cette semaine, Audrey, on reçoit Frédéric Napki.
Frédéric Napki est professeur en génie électrique à l'École de technologie supérieure. Il est également cofondateur de la très prometteuse start-up en semi-conducteurs Spark Microsystems.
Frédéric Napki, bonjour.
Bonjour, un plaisir d'être ici.
Alors, est-ce que vous offrez des bons stages rémunérés chez Spark?
Oui, absolument. D'ailleurs, le lien avec l'ETS nous aide beaucoup. On a d'ailleurs, dès janvier, on va avoir 3 stagiaires rémunérés.
Ah, bon, bah alors on note, hein, Spark, le nouvel Éden des stagiaires en Stegma, hein, prenez-en note. En tout cas, si vous n'êtes pas sous la loupe des organisations étudiantes syndicales, vous êtes en revanche parmi les 60 startups qui font aujourd'hui parler d'elles dans le monde, si on en croit le prestigieux magazine américain EE Times. C'est tout simplement la référence dans l'industrie électronique mondiale. Selon eux, Spark, la startup montréalaise donc, que vous avez fondée il y a quelques années avec votre camarade Dominique Deslandes, c'est l'une des entreprises les plus prometteuse dans l'industrie électronique. Pourquoi?
Excellente question. Donc, le but premier de Spark, c'est d'introduire, disons, la planète. On est vraiment une compagnie qui va aller au-delà des frontières, une technologie sans fil, beaucoup plus efficace énergiquement que ce que l'on utilise, disons, dans nos baladeurs ou nos téléphones comme Bluetooth.
Okay? Ou Wi-Fi.
Ou Wi-Fi. Donc, l'idée étant que l'Internet des objets, je ne sais pas si vous avez déjà fait des articles
des sujets là-dessus.
Ouais. En 2035, la compagnie Arm, qui fait des processeurs, prédit 1 trillion d'objets connectés.
D'objets de ce type.
Et si on assume que certains de ces objets vont être avec des batteries, bien entendu, ben on se retrouve avec des drôles de situations où est-ce qu'on pourrait arriver à 1 milliard de batteries changées par jour. Je ne sais pas si vous voulez changer ces batteries, mais moi, je ne veux pas les changer.
Ouais.
Donc, il y aura un problème. Et si on fait une analyse énergétique des systèmes connectés, il y a beaucoup de systèmes, comme les écouteurs sans fil ou les Fitbit, pour ne pas dire autre, où le sans fil bouffe la grande portion de l'énergie. Donc, le but de Spark, c'est d'amener une puce électronique qui réduit le facteur énergétique des systèmes sans fil au niveau de la fonction sans fil de plus de 40 fois.
C'est fou.
C'est
40
fou,
fois, c'est énorme. C'est énorme.
Exact, c'est énorme. Et c'est pour ça, je crois, qu'on fait l'objet de tant d'intérêt, parce qu'on amène vraiment une nouvelle paradigme au niveau du sans fil.
Alors, effectivement, les technologies sans fil sont partout, dans presque toutes les usines, si je comprends bien, et puis même dans toutes les poches. Alors, la propreté des batteries, puis l'efficience est effectivement cruciale. Votre solution apparaît rassurante. On est curieux. L'intuition qui est à l'origine de votre solution, c'est laquelle?
C'est une bonne question. Donc, il y a environ 10 ans, j'avais mon collègue Dominique Deslandes, qui était professeur comme moi, et on s'est parlé. Puis, on a eu l'idée de se dire que les radios sans fil, que ce soit Wi-Fi, Bluetooth, etc., fonctionnent tous avec le même concept. Donc, si on regarde la structure électronique en arrière, puis on s'est dit, si on allait dans une direction complètement différente, et pour l'imager, bien sûr, en électronique, c'est un peu abstrait, mais je mets l'exemple de Henry Ford qui a dit, bon, on utilise des charrettes avec 12, 24 chevaux. Ben moi, je vais laisser tomber ce concept et je vais faire une voiture avec 4 roues. Et vous comprenez, ça a changé la paradigme.
La fameuse disruption.
La disruption. Je n'ose pas dire ce mot si utilisé de nos jours. Et on a eu cette idée d'utiliser ce qu'on appelle une radio à impulsion. Et pour ne pas rentrer dans les grands détails, mais l'idée, c'est que c'est un retour aux bases de la radio sans fil. Donc, Marconi, que certains peut-être connaissent, il y a maintenant...
Il y avait Pathé, il y avait Marconi.
Oui, ouais. Bon, il y a Bonne Lurette, avait fait des tests et utilisait des étincelles dans l'air pour transmettre des ondes électromagnétiques et les recevait. Et ce fut, disons, une des premières démonstrations de sans fil. Et nous, notre concept, on ne génère pas des étincelles comme telles, mais on a une radio qui réutilise un peu ce concept d'envoyer une impulsion électromagnétique. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a appelé la compagnie Spark Microsystems, parce que Marconi appelait ce dispositif jadis le Spark Gap Radio.
D'accord.
Okay? Et on s'est dit, ben, on revient un peu à cette idée, même si c'est nullement la même techno, mais c'est le concept d'envoyer des infos par impulsion, ce qui fait que la radio peut être éteinte plus longtemps qu'autrement, et donc devient beaucoup plus efficace.
Elle est moins sollicitée.
Voilà.
Spark, votre start-up, emploie déjà 20 salariés. C'est quoi les profils de ceux qui travaillent chez Spark?
Oui, ça, c'est un beau rêve. Il y a un an, on avait 5 personnes, et là, on est à 20, j'en reviens pas.
Ouais.
Effectivement, dans un an, je ne sais pas, on va y aller où, mais ça va être excitant. Donc,
les locaux.
Exact. Donc, le profil, en général, c'est l'ingénieur ou le programmeur. Souvent des ingénieurs électriques, des ingénieurs en logiciel, aussi des informaticiens. On a aussi des ressources, je crois, bientôt, quand la compagnie va devenir plus grande, qui vont être au niveau des ressources humaines, des gens en marketing. On n'est pas encore rendu là, on est encore trop petit.
Mais ingénieurs, principalement sur le plan technique.
Principalement ingénieurs, mais je crois qu'on va étendre plus loin bientôt.
Mais justement, si je vous pose la question, c'est parce que vous êtes aussi professeur, hein, on l'a mentionné, vous appelez, vous, à former plus d'ingénieurs qualifiés. Est-ce qu'aujourd'hui, des entreprises comme Spark manquent de main-d'œuvre ou ont du mal à recruter ou pas?
C'est une excellente question. Je crois qu'effectivement, il y a ce qu'on appelle le plein emploi au Québec et ça affecte beaucoup la gente des ingénieurs. Okay? Il y a beaucoup d'emplois, Mais je crois où les compagnies peuvent aller tirer leur épingle du jeu, c'est en offrant des environnements de travail, disons...
Attractifs,
plutôt que simplement le salaire. Et je remarque aussi avec la génération, et bon, je commence à avoir des cheveux gris, ma femme
pas,
me le dit,
pas.
Mais et je pense que la nouvelle génération veut une qualité de vie au travail, non seulement au niveau de son bureau, etc., mais aussi du lieu de travail. Je remarque plusieurs jeunes veulent travailler au centre-ville. Ne veulent pas nécessairement aller dans les technoparcs ou autres. Et je crois que les technoparcs font un excellent travail d'essayer de se réinventer. Je parlais d'ailleurs à quelqu'un du Technoparc Saint-Laurent qui me disait on essaie de tout revamper pour justement faire l'attrait des technoparcs. Donc, c'est une nouvelle paradigme, mais je crois que oui, il y a un problème au niveau de l'embauche de main-d'œuvre.
Mais ça, on est bien d'accord, pour les attirer, il faut qu'on soit attractif. Mais ma question était plus au niveau de la formation. Est-ce qu'on a suffisamment d'ingénieurs formés pour répondre à vos besoins, vous, entreprise du secteur?
Vous savez, du moins à Montréal, on a quand même plusieurs écoles de génie, la Polytechnique, l'ETS, bien entendu, McGill, Concordia. On a, je crois, un très bon bassin de main-d'œuvre. Peut-être la problématique est que la main-d'œuvre en génie, surtout, disons, en génie électrique ou génie logiciel, commence à se focaliser beaucoup sur tout ce qui est intelligence artificielle et le fameux deep learning, ce qui est excellent parce que c'est un domaine vraiment d'envergure. Mais ce que ça cause, c'est que les gens qui vont travailler plutôt dans les systèmes embarqués ou l'électronique plus classique, comme ce que Spark fait, disons, c'est plus difficile à aller chercher.
Ouais.
Mais ça, je crois que c'est cyclique. Parce qu'il y a une décennie ou deux, il y avait un autre domaine qui était d'envergure et on allait... Donc, l'éducation suit un peu par le gré des étudiants qui veulent aller dans des domaines. On ne les force pas, bien sûr, d'aller dans une spécialité plutôt qu'une autre. Donc ça, oui, effectivement.
Mais ça voudrait dire, et je vais laisser après la parole à ma camarade Audrey, mais ça voudrait dire qu'il faut moins de formation spécialisée, plus généraliste, c'est ça que vous lancez comme message?
Je crois que je peux parler pour le génie électrique, étant dans le département de génie électrique à l'ETS. Vous savez, le génie électrique, c'est très vaste.
Ça touche à tout. Les communications, le transport, la construction.
Voilà, donc plusieurs personnes pensent que c'est simplement les barrages hydroélectriques, mais le génie électrique touche tout ce que vous avez dans votre téléphone intelligent, par exemple. Et la formation, en effet, ce que l'on fait à l'ETS, et je suis certain qu'ailleurs, ils font le même mécanisme, il faut que les étudiants restent relativement généralistes après leur baccalauréat. Et on remarque pour plusieurs étudiants qu'ils veulent rester relativement généraliste. Et au lieu d'aller chercher, disons, en génie électrique, on a fait un nouveau concept. Au lieu d'aller chercher des concentrations, c'est-à-dire les étudiants viennent se concentrer dans un domaine, on a plutôt opté, et bientôt on aura cette option, des thématiques. Et la thématique sera moins rigide. C'est-à-dire, un étudiant peut essayer d'aller toucher à quelques cours dans plusieurs thématiques. Au lieu d'aller chercher une concentration...
En regardant un corpus, c'est ça que je comprends.
Voilà.
C'est intéressant parce que tout à l'heure, vous nous parliez de l'origine de votre technologie qui finalement emprunte une technologie du passé. Justement, ma prochaine question était, je voulais comprendre comment on faisait le lien entre l'intelligence énergétique et l'Internet des objets, mais vous y avez déjà un peu répondu. Alors, mais justement, là, au-delà de votre solution, l'intelligence énergétique dans les années à venir, ça va ressembler à quoi?
C'est une grande question et une question qui va toucher à plusieurs métiers, que ce soit l'ingénieur électrique ou l'ingénieur chimique ou même le mécanique. Parce que vous savez, l'efficacité énergétique, ce n'est pas juste des batteries, ce n'est pas juste des puces électroniques comme ce que Spark fait, c'est aussi des bâtiments efficaces avec des systèmes de ventilation un peu plus intelligents, etc. Je crois qu'une bonne portion de ce qu'on appelle émissions de gaz à effet de serre sera inclus dans ces efforts d'optimisation de bâtiments. On n'en parle pas beaucoup, je dois dire, mais je peux vous dire que j'ai vu des bâtiments avant et après une optimisation énergétique et ça fait une grosse, grosse différence. Et on n'a pas nécessairement eu besoin de fermer des pipelines ou autre. D'ailleurs, je crois que ça fait aussi partie du problème, évidemment, mais il y a aussi une autre portion du problème dans l'efficience.
On a parlé la semaine dernière avec l'envirotique, qui est une des
exactement.
Des
va être, je crois, critique dans la prochaine décennie. Sinon, on le sait, ça va dans un cul-de-sac, sinon.
Et évidemment, votre solution, elle permet d'économiser, on l'a bien compris, l'utilisation des batteries. Mais ça pose aussi la question des batteries elles-mêmes. La GRAP des transports électriques et intelligents, Propulsion Québec, vient de lancer une étude sur le cycle de vie des batteries lithium-ion au Québec. Ces batteries, est-ce que c'est une bonne solution?
Ça, c'est une excellente question. Disons, si on va un peu au niveau philosophique des choses, au Québec, l'avantage, c'est quand on a une voiture électrique, elle est rechargée avec de l'énergie propre. C'est les barrages à la baie James, etc., qui nous amènent de l'énergie qui est quand même très propre. Donc, la voiture électrique a beaucoup de sens. Mais si on va ailleurs et c'est des usines au charbon qui rechargent notre véhicule, c'est probablement un peu mieux, mais On s'entend qu'il y a un problème. Ensuite, au niveau des batteries lithium, on s'entend que le lithium, il faut recycler ses batteries parce que c'est quelque chose de très réactif, quand même, même très dangereux. On a vu dans les médias avec les avions et tout. Donc, je crois que ça fait partie de la solution. Mais il y a quand même des... Ce n'est pas comme si on efface tous les impacts environnementaux lorsque l'on met des batteries lithium partout. Et il y a beaucoup de chimistes et d'experts en batterie qui tentent de trouver des nouvelles chimies pour aller chercher encore plus d'énergie et peut-être quelque chose d'encore plus friendly à l'environnement.
Donc, si on vous comprend bien, on ne peut pas se passer des batteries, mais on peut mieux contrôler leur utilisation, c'est ça que vous dites?
Il est clair qu'éventuellement, il faudra le faire. D'ailleurs, vous savez, une des choses que Spark fait, c'est d'essayer d'enlever ces fameuses batteries, les puces de batteries, là, comme qui ressemblent à des sous, par exemple, qu'on retrouve dans les montres ou autres. Et ces batteries sont très rarement recyclées. Et ça se ramasse, bien entendu, dans nos dépotoirs et tout, et c'est quand même des métaux qui peuvent être assez dommageables. Donc, il n'y a pas seulement les batteries de véhicules électriques qui devront probablement être... Ça sera relativement, je crois, pas facile, mais ça sera plus contrôlable que des petites batteries dans un petit capteur dans le coin d'un mur quelque part que quelqu'un lance aux poubelles quelques années plus tard. Donc, je crois que oui, effectivement, ça devrait être régulé. Et je crois que c'est déjà commencé, l'aspect recyclage des batteries de véhicules électriques. Ce n'est pas
en tout cas, on va être
le Far West.
Oui, c'est ça.
Ouais.
Alors, au-delà du recyclage des batteries, on est dans un véritable tiraillement. Les technologies évoluent très rapidement, mais la croissance, la demande d'énergie croît également très rapidement. Est-ce que vous pensez que les technologies d'aujourd'hui et de demain auront la capacité de nous faire dépasser cette contrainte-là?
Il est vrai que si on regarde les tendances énergétiques des pays en développement versus les pays industrialisés, il y a clairement une tendance où est-ce que, à un moment donné, l'équation ne fonctionne plus, il n'y a plus assez d'énergie pour tout le monde. Ma croyance, c'est que, l'humanité a toujours su innover, et on parle d'innovation ici, et je suis convaincu, et si on creuse un peu, on voit qu'il y a beaucoup de recherches très fondamentales pour aller chercher des nouvelles sources d'énergie. J'ose même pas dire le mot fusion, parce qu'on sait tous la réputation que la fusion nucléaire a aujourd'hui au niveau des pseudo-sciences, etc. Mais, cela dit, il y a d'autres efforts aussi qui sont là pour améliorer l'efficacité énergétique, ce qui va aider beaucoup, parce que ça va enlever la demande, ou du moins ça va la pallier. Et il y aura aussi, je suis certain, des technologies qui vont amener une meilleure efficience de production d'énergie. Donc je suis assez optimiste là-dessus.
Merci beaucoup Frédéric Napki. Je rappelle, vous êtes professeur en génie électrique à l'ETS et aussi surtout fondateur de l'une des 60 startups mondiales, on le rappelle, à surveiller en 2019. Spark, retenez bien ce nom-là. Merci Frédéric d'être venu au plateau de Célèbre.
Merci beaucoup.
Je prends un petit risque, mais je veux que tu saches que ces temps-ci, je trouve qu'on en a...
Merci à vous de nous avoir suivis. On se quitte sur ces quelques notes de Troupeau de l'artiste Philippe Brac. C'est le choix de Émilie. Voilà, c'est moi. C'est moi, Philippe Brac. C'est un très bon choix. Merci beaucoup, Émilie. Ah, c'est notre recommandation de la semaine pour vos travaux de recherche en labo. Merci du coup, Émilie A. Merci, Émilie Aubry. Donc, Émilie L, Émilie Laurenceau. Et merci, Audrey Azoulay. Merci encore une fois, Frédéric Napki, d'avoir été des nôtres cette semaine. À la réalisation technique, Ed Chiche Dumbia et toute l'équipe de GTS. À la recherche, Émilie Laurenceau. Et à la coordination plateau, Eve Jasmin. Philippe Regnoux au micro. C'est l'hebdo, c'est fini pour cette semaine. Rendez-vous non pas jeudi prochain, mais mardi 4 décembre, émission spéciale d'une heure que nous enregistrerons en public depuis le Sheraton de Montréal à l'occasion de la semaine exceptionnelle d'événements consacrés à l'intelligence artificielle responsable. C'est un rendez-vous. D'ici là, très bonne fin de semaine à tous.
C'est pas le même sourire que d'habitude. Un matin, il est emprunt de lassitude. On rit plus de nos jokes de la même manière. J'ai l'impression...